queue de cheval était maintenant tout en flammes. Le centre bleu était éclipsé par le feu rouge-orange. La chair explosait comme si les os s'embrasaient de l'intérieur. En moins d'une minute, il prit l'apparence d'une momie carbonisée, recroquevillée dans la posture d'un boxeur comme toutes les victimes des flammes. Je me détournais, la main sur la bouche, dévisageant les quelques témoins présents pour voir si l'un d'eux aurait pu être responsable de ce qui venait de se passer. Je ne vis que des yeux élargis et des regards apeurés. Plus loin, des gardes de la sécurité déboulaient en force de la porte d'Istrance. Merde. Au-dessus de ma tête, les voiles de l'arbre étaient gonflées par le vent et les diaphanes magnifiques, même en plein jour, volaient au milieu d'une végétation tropicale parée de mille couleurs. La lumière du soleil faisait miroiter l'océan bleu. La route de chacune des deux portes m'était barrée. Celui qui semblait être à la tête du détachement de la sécurité avait dégainé son arme. J'atteignis la première en trois enjambées, le tapis Hawking le plus proche, essayant désespérément de me rappeler, à partir de l'unique fois où j'étais monté sur l'un d'eux, 20 ans auparavant, comment on faisait fonctionner les fils de commande. En désespoir de cause, je tapais sur tous les motifs. Le tapis se raidit et s'éleva à 10 centimètres du sol. J'entendis les cris des gardes qui fendaient la foule. Une femme en costume voyant de Renaissance Minor pointa le doigt dans ma direction. Je sautai du tapis, rassemblai rapidement les 7 autres Hawking et remontai sur le mien. À peine capable de retrouver les motifs de vol sous l'amoncellement des autres tapis, je cognai comme une folle sur les commandes jusqu'à ce que le Hawking se décide à décoller en me faisant presque basculer en arrière. 50 mètres plus loin, à une hauteur de 30 mètres, je balançai à la mer les autres tapis et me retournai pour voir ce qui se passait en bas. Plusieurs uniformes gris étaient penchés sur les restes carbonisés de queue de cheval. Quelqu'un pointait un bâton argenté dans ma direction. De folles aiguilles de douleur glacée se propagèrent le long de mon bras, de mon épaule et de ma nuque. Mes paupières devinrent lourdes comme du plomb. Je faillis glisser du tapis du côté droit. J'agrippais de la main gauche le côté opposé, me penchais en avant et martelais le motif d'ascension avec des doigts que je ne sentais plus. Dès que le tapis grimpa, je tâtais ma manche droite à la recherche de mon propre étourdisseur. Mais la sangle élastique était vide. Une minute ou deux plus tard, je pus me redresser et reprendre un peu mes esprits. Mes doigts étaient encore douloureux et j'avais une migraine de tous les diables. Mais l'île mobile était loin derrière moi et devenait de plus en plus petite. Un siècle plus tôt, elle aurait été remorquée par un attelage de dauphins amené spécialement ici à cet effet pendant les gires. Mais les opérations de pacification menées par l'hégémonie pendant la révolte de Syrie avaient eu pour conséquence l'extermination de la plus grande partie des mammifères marins et les îles dérivaient aujourd'hui au hasard, livrées uniquement aux touristes et aux exploitants des installations de villégiature. Je balayais l'horizon du regard à la recherche d'une autre île ou de l'un des rares continents de cette planète. Mais je ne vis rien d'autre que le ciel bleu, l'océan infini et les fines traînées de nuages à l'ouest. À moins que ce ne fût l'Est. Je sortis mon persoc et entrepris de demander l'accès à l'infosphère générale. Mais j'arrêtai avant de valider. Si les autorités essayaient de retrouver ma trace, la première chose qu'elles feraient serait de me localiser et de me coller aux fesses un glisseur ou un VEM de la sécurité. Je n'étais pas sûr qu'elles puissent le faire à partir d'un accès sur mon persoc, mais autant éviter de leur faciliter la tâche. Je me contentais donc de laisser le persoc en sommeil et scrutait de nouveau les 4 horizons. Bravo, Brown. Te voilà en train de foncer à 200 mètres d'altitude sur un tapis volant âgé d'au moins 3 siècles, sans même savoir combien d'heures ou de minutes d'énergie il reste dans les fils de commande à 1000 km au plus de toute Terre, et complètement perdu pour tout dire. Encore bravo. Je croisais les bras et m'efforçais de réfléchir.
H. Lamien ?
La voix douce de Johnny me fit presque tomber à la renverse.
Johnny ?
Je regardais le persoc toujours en sommeil. L'indicateur de fréquence n'était pas éclairé.
Johnny ? C'est vous, Johnny ?
Naturellement. Je me demandais quand vous vous décideriez à allumer votre persoc.
Comment avez-vous retrouvé ma trace ? Sur quelle fréquence m'appelez-vous ?
Ne vous occupez pas de ça. Où allez-vous ?
J'éclatais de rire et lui expliquais que je n'en avais pas la moindre idée. « Pouvez-vous m'aider ?»«
Une seconde, voilà, » reprit-il au bout d'une fraction de ce temps. « Je vous ai localisé sur un des satellites météo. Rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Vous avez de la chance que votre Hawking est un transpondeur passif. Je regardais la mince épaisseur de tapis qui était la seule chose entre moi et une longue chute vertigineuse dans la mer.
Ah oui? Mais les autres peuvent donc me retrouver aussi?
Ce serait vrai, répliqua Johnny, si je n'avais pas pris la peine de brouiller le signal.
Où voulez-vous aller?
Chez moi. Je me demande si ce serait une très bonne idée après le décès prématuré de notre suspect.
Je fronçai les sourcils, soudain soupçonneuse. Comment savez-vous cela? Je ne vous ai encore rien dit.
Un peu de sérieux, Ashlamia. Vos exploits sont racontés sur toutes les fréquences de la sécurité de 6 mondes au moins. Ils ont même un signalement de vous qui correspond assez bien.
Merde!
Vous avez raison. Où voulez-vous aller maintenant?
Où êtes-vous? Chez moi?
Non, je suis parti lorsque les fréquences de la police ont commencé à parler de vous. Je suis à proximité d'une porte distance. C'est là que je veux être aussi.
Je regardais de nouveau autour de moi. L'océan, le ciel, les traînées de nuages au loin. Aucune trace de VEM en tout cas.
Très bien, fit la voix désincarnée de Johnny. Il y a une multiporte désaffectée de la force à moins de 10 kilomètres de l'endroit où vous vous trouvez actuellement.
Je mis la main en visière sur mon front et balayai l'horizon sur 360 degrés.
Vous vous foutez de moi?
J'ignore à quelle distance est l'horizon sur ce monde, mais ça ne peut pas être inférieur à 40 bornes. Et je ne vois pas le moindre foutu truc.
Base submersible, expliqua Johnny. Accrochez-vous, je prends les commandes.
Le tapis Hawking s'inclina violemment, vira, piqua du nez, puis se stabilisa et commença à perdre rapidement de l'altitude. Je m'agrippai à deux mains, refoulant une envie hystérique de hurler à plein poumon.
Submersible !
Criai-je pour couvrir le sifflement du vent.
Et à quelle distance ?
Vous voulez dire à quelle profondeur ?
C'est ça !
8 brasses.
Je convertis l'unité archaïque en mètres. Cette fois-ci, je hurlai pour de bon.
Ça fait presque 14 mètres sous l'eau !
Où serait une base submersible, sinon sous l'eau ?
Qu'est-ce que je dois faire ? Retenir ma respiration ?
Glapis-je tandis que l'océan montait vers moi à toute vitesse.
Pas nécessaire, me répondit mon père Soc. Votre tapis Hawking est muni d'une bulle anti-crash assez primitive qui devrait tenir sur 8 ou 10 brasses. Accrochez-vous, s'il vous plaît.
Je m'accrochais de toutes mes forces. Johnny m'attendait à mon arrivée de l'autre côté. La base submersible abandonnée, obscure et moite, possédait une porte distance d'un modèle militaire dont je n'avais jamais entendu parler jusque-là. Ce fut un grand soulagement pour moi que d'émerger dans les rues d'une grande ville ensoleillée pour rejoindre Johnny. Je lui racontais ce qui était arrivé à Queue-de-Cheval. Nous étions dans une grande artère toute vide, bordée de vieux immeubles. Le ciel était bleu pâle, ce devait être la fin de l'après-midi. Mais le plus frappant est qu'il n'y avait personne.
« Hé ?» lui dis-je en m'arrêtant brusquement.
« Où sommes-nous ? » Ce monde était nettement de type terrestre, mais le ciel, la gravité et la texture de l'endroit ne ressemblaient à rien de ce que j'avais visité. Il sourit.
Essayez de deviner. Marchons encore un peu.
Nous descendions une large avenue. Sur ma gauche, je vis des ruines. Je m'arrêtai, bouche bée.
C'est le Colisée ? M'exclamai-je.
Le Colisée romain de l'ancienne terre ?
Je regardais de plus près les vieux immeubles alentour, les pavés de la chaussée et les arbres qui oscillaient doucement sous la brise. C'est une reconstitution de la ville de Rome sur l'ancienne terre, affirmai-je en essayant de réprimer l'étonnement qui perçait dans ma voix.
Nous sommes sur la nouvelle terre ?
Mais je savais très bien que ce n'était pas le cas. J'avais visité la nouvelle terre de nombreuses fois. La couleur du ciel, les odeurs et la gravité n'étaient pas les mêmes. Il secoua la tête.
Nous ne sommes pas dans le Retz, me dit-il.
Je m'arrêtai net.
C'est impossible.
Par définition, tout monde accessible par le réseau d'Istrans faisait partie du Retz.
C'est pourtant la vérité, me dit Johnny.
Où sommes-nous alors ?
Sur l'ancienne terre.
Nous nous étions remis à marcher. Il me montra une autre ruine.
Le forum.
Nous descendîmes un grand escalier et il ajouta :
Devant nous, la Piazza d'Espagne, où nous passerons la nuit.
L'ancienne terre ? Commentai-je, ouvrant la bouche pour la première fois depuis 20 minutes.
Un voyage dans le temps ?
Impossible, hâche la mienne.
Un parc thématique ?
Il se mit à rire d'une manière plaisante et décontractée.
C'est possible.
J'ignore à quoi il répond exactement, mais c'est un analogue.
Un analogue ? Je plissai les yeux, regardant le soleil pourpre en train de se coucher au fond d'une rue étroite.
Cela ressemble exactement aux holos de l'ancienne terre que j'ai eu l'occasion de voir. On a l'impression d'y être vraiment, même sans y avoir jamais mis les pieds.
C'est d'une très grande précision.
Où est-ce ? Quelle étoile ?
J'ignore le numéro. C'est dans l'amas d'Hercule.
Je m'efforçais de ne pas répéter ce qu'il venait de dire, mais je m'arrêtai net et m'assis sur une marche.
Grâce au propulseur Hawking, l'humanité avait exploré, colonisé et relié par distance des mondes étalés sur des milliers et des milliers d'années-lumière. Mais personne n'avait essayé d'atteindre les soleils en explosion de la centralité. Nous n'avions fait que ramper timidement pour sortir du berceau de notre bras spiral. L'amas d'Hercule.
Pourquoi le technocentre a-t-il construit une réplique de Rome dans l'amas d'Hercule ? Demandai-je.
Johnny s'assit à côté de moi. Nous levâmes en même temps la tête, tandis qu'une masse froufroutante de pigeons explosait en un vol tournoyant au-dessus des toits.
Je ne sais pas, Ashlamia. Il y a beaucoup de choses que j'ignore encore en partie, sans doute parce que je ne m'y suis pas intéressé jusqu'à présent.
Brown, lui dis-je.
Pardon ?
Appelez-moi Brown.
Il sourit et inclina la tête. D'accord, Brown. Merci. Un détail cependant. Je ne pense pas que ce soit une réplique de Rome uniquement. Il s'agit de toute l'ancienne terre.
Je posai les deux mains sur la marche chauffée par le soleil.
Toute la terre ?
Vous voulez dire avec ses continents, ses villes ? Au complet ?
C'est ce que je pense, oui. Je n'ai visité que l'Italie et l'Angleterre, y compris la traversée par mer, mais j'ai bien l'impression que l'analogue est complet.
Mais pourquoi, pour l'amour de Dieu ?
Johnny hocha gravement la tête.
Vous ne croyez pas si bien dire. Il est possible que l'explication soit là, en effet. Voulez-vous que nous allions à l'intérieur manger quelque chose tout en continuant d'en discuter ? Il y a peut-être un rapport avec la personne qui a voulu me tuer et ses mobiles.
L'intérieur était un appartement intégré à une vaste demeure au pied de l'escalier de marbre. Les fenêtres ouvraient sur ce que Johnny appelait la piazza. Elle laissait apercevoir, en haut des marches, une grande église aux murs de couleur ocre et, plus bas, sur la place, une fontaine en forme de bateau qui projetait ses jets d'eau dans le silence du soir. Johnny m'apprit que c'était Bernini qui l'avait conçu, mais ce nom ne signifiait rien pour moi. Les chambres étaient petites, mais de plafond haut, avec un mobilier rustique aux moulures élaborées, appartenant à un style que je ne reconnaissais pas. Il n'y avait aucun appareil électrique, aucun signe de confort moderne. La demeure ne répondit pas lorsque je m'adressais à elle sur le seuil, ni dans les chambres du haut. La nuit tombait sur la place et sur la ville, dont les seules lumières étaient celles de quelques lampadaires ou becs de gaz, utilisant je ne sais quel combustible primitif.
C'est une reconstitution du passé de l'ancienne terre, murmurai-je en tapotant les oreillers épais.
Je relevai brusquement la tête, saisi d'une compréhension soudaine.
Keats est mort en Italie au début du 19e ou du 20e siècle. C'est son époque.
Oui. Début du 19e, 1821 pour être plus précis.
C'est un monde musée ?
Pas du tout, mais les autres régions appartiennent à des époques différentes, naturellement, en fonction de l'analogue recherché.
Je ne comprends pas. Nous étions maintenant dans une pièce encombrée de mobilier très lourd, et je m'assis sur un lit curieusement sculpté près d'une fenêtre. La lumière dorée du couchant éclairait encore la flèche de l'église ocre. Des pigeons blancs volaient en cercle dans le bleu du ciel. « Est-ce qu'il y a des millions d'habitants, des hybrides, qui vivent sur cette terre factice ? Demandai-je.
Je ne crois pas. Il n'y a que ceux qui sont nécessaires à un analogue particulier.
Voyant que je ne comprenais toujours pas, il prit une profonde inspiration avant de continuer.
Lorsque je me suis réveillé ici, il y avait des analogues de Joseph Severne, du docteur Clark, de la propriétaire Anna Angeletti, du jeune lieutenant Elton et de quelques autres. Des boutiquiers italiens, le patron de la trattoria sur la place qui nous apportait nos repas, et quelques passants, en tout une vingtaine de personnes, pas plus.
Que sont-ils devenus ?
Ils ont probablement été recyclés, comme votre homme à la queue de cheval.
Que de... C'était un hybride ? Demandai-je soudain en le fixant dans la pénombre.
La chose ne fait aucun doute. L'autodestruction que vous m'avez décrite correspond exactement à la manière dont je me débarrasserai de ce hybride en cas de nécessité.
Les rouages tournèrent dans ma tête à toute allure. Je compris à quel point j'avais été stupide, à quel point j'avais été longue à saisir. « C'est donc une autre IA qui a essayé de vous tuer, » murmurai-je.
« Il semble bien.
Pour quelle raison ?» Il fit un geste vague.
« Peut-être pour effacer définitivement un certain nombre d'informations qui sont mortes avec mon hybride. Quelque chose que j'aurais appris tout récemment et que l'autre ou les autres IA savaient pouvoir détruire en provoquant l'arrêt de mon système. »
Je me levai pour faire les 100 pas et m'arrêtai devant la fenêtre. L'obscurité tombait maintenant pour de bon. Il y avait des lampes dans l'appartement, mais Johnny ne semblait pas vouloir les allumer et je préférais moi aussi la pénombre, même si cela rendait encore plus irréelles les révélations auxquelles j'étais confronté. Tandis que les fenêtres à l'ouest laissaient pénétrer la dernière clarté du soir, faisant briller d'un éclat phosphorescent le dessus de lit blanc, je murmurais « C'est dans cette chambre que vous êtes mort.
Lui, pas moi.
N'oubliez pas que je ne suis pas lui. Mais vous avez ses souvenirs ?
Des rêves à moitié oubliés. Il y a des trous énormes.
Vous savez cependant ce qu'il ressentait ?
Ce que mes concepteurs croyaient qu'il ressentait.
Racontez-moi.
Quoi ?
La peau très pâle de Johnny luisait dans la pénombre. Ses boucles courtes semblaient noires. Ce que l'on ressent quand on meurt. Et quand on ressuscite. Il me parla d'une voix douce, presque mélodieuse, dans une langue parfois trop archaïque pour être intelligible, mais beaucoup plus belle à l'oreille que la langue hybride que nous utilisons aujourd'hui. Il me raconta ce que c'était que d'être un poète obsédé par la perfection, beaucoup plus dur envers ses propres efforts que les plus hargneux des critiques. Et les critiques ne manquaient pas d'être hargneux. Son œuvre avait été dénigrée, raillée, décrite comme insignifiante et absurde. Trop pauvre pour épouser la femme qu'il aimait, obligé de prêter de l'argent à son frère en Amérique et privé ainsi de son unique chance de sécurité financière, il avait ensuite connu la gloire éphémère d'atteindre la pleine maturité de ses moyens poétiques au moment où il était devenu la proie de la phtisie qui avait déjà emporté sa mère et son frère Tom. Puis il s'était exilé en Italie, officiellement pour sa santé, sachant très bien que cela ne signifiait rien d'autre qu'une mort pénible et solitaire à l'âge de 26 ans. Il me parla aussi de la souffrance causée par l'écriture de Fanny sur des enveloppes qu'il n'avait pas eu le courage d'ouvrir. Il me parla de l'amitié fidèle du jeune artiste Joseph Severne qui avait été choisi comme compagnon de voyage de Keats par des amis qu'il avait abandonnés dans ses derniers moments. Il me raconta comment Severne avait soigné jusqu'à la fin le poète agonisant. Il me décrivit ses hémorragies nocturnes, et le traitement du docteur Clark, qui consistait à lui faire des saignées et à lui prescrire de l'exercice et du grand air. Il me parla de ses ultimes désespoirs personnels et religieux, qui avaient conduit Keats à demander que son épitaphe, gravée dans la pierre, dise simplement « Si gît celui dont le nom était écrit dans l'eau ». Seule une infime clarté venue d'en bas ourlait maintenant les fenêtres hautes, et la voix de Johnny semblait flotter dans l'air saturé de parfums nocturnes. Il me parla de son réveil dans le lit même où il était mort, avec le fidèle Severne et le docteur Clark à ses côtés, et du souvenir qu'il avait d'être le poète John Keats, un peu comme on se rappelle un rêve en train de disparaître rapidement, tout en sachant qu'il était en réalité autre chose.
Il me parla de l'illusion prolongée, du voyage de retour en Angleterre, des retrouvailles avec une Fanny qui n'était pas Fanny, et de la dépression nerveuse que cela avait failli provoquer. Il me confia son incapacité à écrire de la poésie, son éloignement de plus en plus grand par rapport aux imposteurs hybrides, sa retraite dans un état qui ressemblait à une catatonie mêlée d'hallucinations, empruntée à sa véritable existence d'IA dans un technocentre pratiquement incompréhensible pour un poète du XIXe siècle. Il me fit part, enfin, de l'effondrement total de ses illusions et de l'abandon du projet Keats. « En fait, murmura-t-il, toute cette comédie sinistre me faisait de plus en plus penser à un passage d'une lettre que j'ai... qu'il a écrite à son frère Georges quelque temps avant sa maladie, et où il disait « N'existerait-il pas des êtres supérieurs qui pourraient s'amuser des attitudes gracieuses, quoique purement instinctives où mon esprit m'entraîne, de la même manière que je m'amuse de la vivacité d'une hermine ou des angoisses d'un daim ?» Bien qu'une rixe en pleine rue soit chose haïssable, les énergies qui s'y déploient sont intéressantes. Vues par un être supérieur, nos raisonnements peuvent prendre la même coloration. Bien qu'erronés, ils n'en sont peut-être pas moins valables. C'est cela la véritable nature de la poésie.
Vous pensez que le projet Keats était nuisible ? Demandai-je.
Tout ce qui est fait pour tromper est haïssable, à mon avis.
Peut-être y a-t-il plus en vous de John Keats que vous ne voulez bien le reconnaître ?
Non. L'absence d'instinct poétique a démontré le contraire, même au milieu des illusions les plus élaborées.
Je fis du regard le tour de la pièce, avec ses formes noires dont les contours étaient à peine visibles. Les IA savent-elles que nous sommes ici ?
Probablement. Presque certainement même. Il n'y a pas un seul endroit où je puisse aller sans que le technocentre trouve ma trace et me suive. Mais ce sont les autorités du RETS et ces brigands que nous avons voulu fuir, n'est-ce pas ?
Vous savez néanmoins à présent que c'est quelqu'un ou une intelligence du centre qui vous a attaqué.
Oui, mais uniquement sur le territoire du RETS. Ce genre d'action violente ne serait pas tolérée dans le centre.
Un bruit monta de la rue. J'espérais que ce n'était qu'un pigeon. Ou peut-être le vent qui poussait des débris sur les pavés. Comment le technocentre va-t-il réagir à ma présence ici ? Demandai-je.
Je n'en ai pas la moindre idée.
Ce doit être un secret tout de même.
C'est quelque chose qui, d'après eux, ne regarde pas l'humanité.
Je secouai la tête, geste futile dans cette obscurité. La reconstitution de l'ancienne Terre ? La résurrection de combien de personnalités humaines sous la forme de cybrides peuplant des environnements recréés ? Des IA qui assassinent d'autres IA ? Et cela ne regarde pas les humains ? Je me mis à rire, mais repris le contrôle en ajoutant « Même Jésus-Christ a versé des larmes, Johnny.
C'est certain. Ou presque. »
Je me déplaçai jusqu'à la fenêtre, sans me soucier de savoir si j'offrais une cible à quelqu'un qui se serait posté en bas dans la rue sombre, et je sortis une cigarette de ma poche. Elles avaient pris l'humidité quand j'avais pourchassé mon homme dans les congères, mais l'une d'elles s'alluma quand même quand je la frottais. « Tout à l'heure, Johnny, quand vous m'avez dit que l'analogue de l'ancienne Terre était complet et que je vous ai demandé « Pourquoi, pour l'amour de Dieu ?», vous m'avez répondu quelque chose comme « Vous ne croyez pas si bien dire ». Est-ce que c'était juste une plaisanterie à la con ? Ou bien, aviez-vous réellement une idée derrière la tête ?
Je voulais dire que c'était peut-être, effectivement, pour l'amour de Dieu.
Expliquez-vous ? Je l'entendis soupirer dans l'obscurité.
Je ne comprends pas la finalité exacte du projet Keats ou des autres analogues de l'ancienne Terre. Mais je les soupçonne de faire partie d'un programme plus vaste du technocentre, vieux de 7 siècles standards au moins, visant à créer l'intelligence ultime.
L'intelligence ultime, répétai-je, exhalant ma fumée. Le technocentre essaye de construire Dieu ou quoi ?
C'est à peu près cela.
Mais pourquoi ?
Il n'y a pas de réponse simple à cette question, Brown. Ni à celle qui consiste à demander pourquoi l'humanité est à la recherche de Dieu depuis 10 000 générations et sous 1 million de facettes. Pour le technocentre, cependant, il faut voir l'intérêt de la chose sous l'angle de la recherche d'une plus grande efficacité et d'une manière plus fiable de manipuler les variables. Mais le technocentre a ses propres ressources et celles des infosphères de 200 mondes, qui laissent encore des blancs dans ses capacités de prédiction. Je jetai ma cigarette par la fenêtre et suivis du regard la courbe du point rouge à travers l'obscurité. La brise avait soudain fraîchi. Je croisai les bras sur mes épaules. Comment tout cela, l'ancienne terre, les résurrections, les cybrides, comment cela mène-t-il à la création de l'intelligence ultime? Je l'ignore, Brown. Il y a 8 siècles standard, au début de la première ère de l'information, un homme nommé Norbert Wiener a écrit « Dieu peut-il jouer de manière significative avec ses créatures ? Un créateur quelconque, même limité, peut-il jouer avec les siennes à un jeu significatif ?» L'humanité n'a pas fourni de réponse satisfaisante à cette question en construisant ses premières IA. Le technocentre se débat avec cette question dans ses programmes de résurrection. Peut-être son projet IU est-il arrivé à terme ? Peut-être tout cela fait-il partie des fonctions de l'ultime créature-créateur, une entité dont les motivations seraient aussi éloignées des capacités de compréhension du technocentre que celui-ci l'est de l'humanité. Je commençais à faire les 100 pas dans le noir, me cognais la jambe contre une table basse et restais sur place, toujours debout. « Tout cela ne nous apprend rien sur ceux qui veulent vous tuer, » murmurai-je. « Non, » fit Johnny en se levant pour aller à l'autre bout de la pièce, où il craqua une allumette. Il alluma une bougie. Nos ombres déformées vacillèrent sur les murs et au plafond. Il revint vers moi et me saisit les bras. La flamme de la bougie donnait à ses boucles et à ses sourcils des reflets cuivrés et faisait briller son menton et ses pommettes hautes. « Pourquoi vous faites-vous si dur ?» me demanda-t-il. Je regardais ses yeux. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du mien. Nous étions de la même taille. « Laissez tomber, » lui dis-je. Au lieu de cela, il se pencha en avant et m'embrassa. Ses lèvres étaient douces et chaudes, et le baiser sembla durer des heures. « C'est une machine, » me disais-je. « Il est peut-être humain, mais il y a une machine derrière tout ça. » Je fermai les yeux. Sa main me caressa doucement la joue, le cou, la nuque. « Écoutez, » commençai-je lorsqu'il me lâcha un instant. Il ne me laissa pas finir. Il me souleva dans ses bras et me porta dans la chambre où était le grand lit. Le matelas était doux et l'édredon moelleux. La bougie dans l'autre pièce faisait danser les ombres, tandis que nous ôtions mutuellement nos vêtements pris d'une soudaine frénésie. Nous fîmes l'amour à 3 reprises cette nuit-là, comme un aboutissement, chaque fois, de la douce et lente montée du plaisir causé par le contact, la chaleur et la tendresse qui nous submergeaient. Je me souviens de m'être penché sur lui la 2e fois pour le contempler. Il avait les yeux fermés et ses cheveux retombaient en désordre sur son front. La bougie éclairait la roseur de son torse pâle et ses bras d'une force étonnante qui me maintenait toujours par la taille. Il ouvrit les yeux à cet instant pour me regarder à son tour. Et j'y lus toute l'émotion et la passion qui l'habitaient. Un peu avant l'aube, nous nous assoupîmes. Juste avant de sombrer, je sentis sa main froide qui se posait sur ma hanche, en un geste naturel et protecteur, sans être pour autant possessif. Ils nous attaquèrent juste après les premières lueurs de l'aube. Ils étaient 5. Ce n'étaient pas des Lusiens, mais il n'y avait que des hommes, tous athlétiques et bien rodés pour le travail en équipe. Je les entendis au moment où ils enfonçaient d'un coup de pied la porte de l'appartement. Je roulai aussitôt à bas du lit, bondis jusqu'à la porte de la chambre et m'embusquai au moment où ils entraient. Johnny se redressa, hurlant quelque chose au premier homme qui brandissait un étourdisseur. Il avait mis un slip en coton avant de s'endormir. J'étais nu. C'est un désavantage réel que de se battre nu contre des adversaires habillés, mais le problème est surtout d'ordre psychologique. Si l'on est capable de surmonter l'impression de vulnérabilité accrue, le reste peut être aisément compensé. Le premier homme m'aperçut et décida quand même d'étourdir Johnny. Il paya chèrement son erreur. Je fis voler son arme d'un coup de pied et l'assommai d'un revers de main derrière l'oreille gauche. Deux autres entrèrent. Cette fois-ci, ils eurent le réflexe de s'occuper de moi d'abord tandis que les deux derniers sautaient sur Johnny. Je bloquai une main lancée à plat, doigts serrés, esquivai un coup de pied qui aurait pu faire des dégâts et reculai. Il y avait une commode sur ma gauche et le tiroir du haut glissa sans se faire prier. Le costaud qui me faisait face s'abrita le visage des deux mains, de sorte que le bois épais éclata, mais sa réaction instinctive m'avait donné la fraction de seconde dont j'avais besoin pour mettre tout mon poids dans le coup de pied que je lui balançais. Le numéro 2 s'affaissa contre son copain avec un grognement sourd. Johnny se débattait, mais l'un de ses attaquants l'avait pris à la gorge et l'autre le maintenait par les pieds. Je fonçais, encaissant au passage un coup de mon numéro 3, et fis un bond énorme par-dessus le lit. Celui qui tenait les jambes de Johnny passa sans un cri à travers le bois et le verre de la fenêtre. Quelqu'un atterrit sur mon dos. Je continuai avec son propre élan et l'emmenai contre le mur opposé. Il savait se battre. Il encaissa de l'épaule et voulut me triturer un nerf derrière l'oreille. Mais il eut du mal à cause des couches de muscles qu'il rencontra. Je lui enfonçai mon coude dans l'estomac et me dégageai en roulant sur moi-même. Celui qui était en train d'étrangler Johnny le lâcha et me lança un coup de pied dans les côtes exécuté selon les règles de l'art. J'encaissai l'impact à moitié. Je sentis au moins une côte qui cédait. Je pirouettais, tête baissée, et abandonnait toute élégance pour lui écraser un testicule de la main gauche. Il hurla. Il était hors circuit. À aucun moment je n'avais oublié l'étourdisseur tombé par terre et mon dernier adversaire valide non plus. Il fit le tour du lit, hors d'atteinte, et se jeta à quatre pattes pour s'emparer de l'arme. Oubliant la douleur causée par ma côte cassée, je soulevai le lit massif avec Johnny dedans et le laissai retomber sur la tête et les épaules du Gus. Puis je me baissai de mon côté du lit, récupérait l'étourdisseur et reculait jusqu'à un coin inoccupé de la chambre. Nous étions au premier étage. L'un des cinq hommes était passé par la fenêtre. Le premier entré était toujours inconscient sur le seuil. Celui qui avait été terrassé d'un coup de pied avait réussi à se redresser sur les coudes et sur un genou. À la couleur du sang qui dégoulinait au coin de ses lèvres et sur son menton, je déduisis qu'une côte lui avait transpercé un poumon. Sa respiration était un sifflement rauque. Le lit avait broyé le crâne du quatrième. Le cinquième était recroquevillé sous la fenêtre. Il vomissait en se tenant les couilles. Je le fis taire d'un coup d'étourdisseur. Je m'approchai de celui qui crachait son poumon et lui soulevai la tête par les cheveux.
« Qui t'envoie ? Va te faire foutre !»
dit-il en me crachant une sanie rose à la figure.
« Plus tard, peut-être »
répliquai-je en plaçant trois doigts sur sa cage thoracique à l'endroit où elle semblait concave et en les enfonçant.
Je veux d'abord savoir qui t'envoie.
Il hurla et devint très blanc. Quand il toussa, le sang était rouge vif contre sa peau blême.
Qui t'envoie ?
Répétai-je en enfonçant quatre doigts.
L'évêque !
S'écria-t-il en essayant d'échapper à mes doigts.
Quel évêque ? Le temple Krichtek ! Ah, Usus ! Arrêtez par pitié ! Oh, merde ! Qu'alliez-vous faire de lui ? De nous ? Rien du tout ! « Non ! Arrêtez ! J'ai besoin d'un médecin ! Ah ! Par pitié !»« D'accord. Réponds d'abord. »« Le prendre vivant ! Le ramener là-bas ! Au temple ! Ah ! Sur l'Usus ! Oh, je vous en supplie ! Je ne peux plus respirer ! Et moi ? Vous tuez si vous résistiez ! » !»« Bon !»
déclarai-je en le soulevant un peu plus par les cheveux. « Je vois qu'on est devenu raisonnable. » Et que lui veulent-ils ?
Je ne sais pas.
Il poussa un cri perçant. Je ne quittais pas des yeux l'entrée de la chambre. J'avais toujours l'étourdisseur dans la main, sous une masse de cheveux englués.
Je ne sais rien de plus !
Haleta-t-il. Il avait une sérieuse hémorragie à présent. Le sang coulait abondamment sur mon sein gauche et le long de mon bras.
Comment êtes-vous venu ? P.E.M. Le toit.
Quelle station distance ?
Je ne sais pas, je le jure. Une ville sur l'eau. Réglage automatique. Ah, pour le retour. Par pitié.
Je lui écartai sa chemise. Pas de pare-soc, pas d'autre arme. Juste un tatouage au-dessus du cœur.
un trident bleu. « Gunda ?» lui demandai-je.
« Oui, fraternité de Parvati !»
En dehors du Retz, sans doute presque impossible à remonter. « Les autres aussi ?»«
Oui, faites venir quelqu'un, je vous en supplie. Aidez-moi !»
Il sombra dans une semi-inconscience. Je le lâchai, reculai, et l'arrosai de mon rayon étourdisseur. Johnny était assis dans le lit. Il se massait la gorge en m'observant d'une étrange manière.
« Habille-toi !» lui dis-je. « On s'en va !»
Le VEM était un vieux week-end de tourisme à la coupole transparente, sans plaque de démarrage ni serrure palmaire sur le tableau de bord. Nous rattrapâmes le Terminator avant d'avoir traversé la France et contemplâmes au-dessous de nous dans la nuit ce que Johnny appelait l'océan Atlantique. Exception faite des lumières d'une cité flottante occasionnelle ou d'une plateforme de forage, la seule illumination provenait des étoiles et de la clarté sous-marine des colonies établies dans les profondeurs de l'océan.
« Pourquoi avons-nous pris leur engin ?» me demanda Johnny.
« Je veux savoir à partir d'où ils se sont distransportés. Il a parlé du temple Grichtek de Lusus.
Je sais.
Nous allons bientôt en avoir le cœur net. » Le visage de Johnny était à peine visible tandis qu'il se penchait pour regarder la mer 20 000 kilomètres plus bas.
« Tu crois qu'ils vont tous mourir ?» me demanda-t-il.
L'un d'eux était déjà mort. Celui qui a le poumon perforé s'en tirera peut-être s'il est soigné à temps. Deux autres s'en sortiront. Pour celui qui est passé à travers la fenêtre, je ne sais pas. C'est important pour toi ?
Oui. Toute cette violence ! Quelle barbarie !
Bien qu'une rixe en pleine rue soit chose haïssable, les énergies qui s'y déploient sont intéressantes, lui rappelai-je. Ce n'était pas des cybrides cette fois, n'est-ce pas ?
Je ne pense pas.
Il y a donc au moins deux groupes qui veulent ta peau. Les IA et l'évêque du temple Grichtek. Quant aux mobiles, nous n'en savons toujours rien.
Je crois que j'ai une petite idée à présent.
Je fis pivoter mon siège couché de capitonné. Les constellations au-dessus de nous, je ne reconnaissais ni celles des holos de l'ancienne Terre, ni celles des monts du Retz qui m'étaient familiers, diffusaient juste assez de clarté pour que je puisse apercevoir les yeux de Johnny. « Explique, lui dis-je.
C'est quand tu as parlé d'Hyperion que tu m'as mis sur la voie. Le fait que je ne possède aucune information sur ce monde, c'est cela qui est important.
C'est comme l'énigme du chien qui aboyait dans la nuit.
Hein ?
Rien, rien. Continue. » Il se pencha vers moi.
« La seule explication pour toutes ces données manquantes, c'est que certains éléments du technocentre les ont délibérément censurés. »
Ton cybride ? Cela me faisait tout drôle à présent de m'adresser à Johnny de cette manière. « Tu as passé la plus grande partie de ton temps à l'intérieur du Retz, n'est-ce pas ? » lui demandai-je.
« C'est exact. »
« Et tu n'étais jamais tombé sur le nom d'Hyperion. Il est pourtant régulièrement à la une des médias, particulièrement quand le culte Grichtek est d'actualité. »
Il est possible que cela se soit produit et que j'ai été assassiné justement pour ça.
Je me renfonçai en arrière dans mon siège tout en continuant de regarder les étoiles. Nous poserons la question à l'évêque, lui dis-je. Il m'expliqua que les constellations dans le ciel étaient un analogue de New York au XXIe siècle. Il ignorait pour quel programme de résurrection la cité avait été reconstituée. Je coupai le pilotage automatique du VEM et descendit plus près du sol. Les hautes tours de l'époque phallique de l'architecture urbaine s'élevaient au milieu des marécages et des lagunes du littoral nord-américain. Plusieurs de ces tours étaient illuminées. Johnny me montra une structure décrépite, mais aux formes encore curieusement élégantes, en disant
« L'Empire State Building ».«
D'accord », murmurai-je. « Quel que soit son nom, c'est là que le VEM a envie de se poser. »
« Ce n'est pas dangereux ?»
Je lui souris de toutes mes dents. Il n'y a rien dans la vie qui ne soit pas dangereux. Je laissai faire le pilote automatique et nous descendîmes nous poser sur une petite plateforme à ciel ouvert, juste au-dessous de la flèche du gratte-ciel. Nous sortîmes sur la terrasse au sol craquelé. Il faisait sombre malgré les étoiles et les lumières qui brillaient au-dessus de nous.
Un peu plus loin sur la terrasse, les contours bleutés d'une porte distance nous attendaient à l'endroit où devait se trouver jadis un ascenseur. « Je passe la première, » dis-je à Johnny, mais il m'avait déjà précédé de l'autre côté de la porte. Je sortis l'étourdisseur que j'avais conservé et lui emboîtai le pas. Je n'avais jamais visité le temple Grichtek de Lusus, mais il ne faisait aucun doute que c'était là que nous nous trouvions maintenant. Johnny se tenait à quelques pas devant moi, et il n'y avait personne d'autre que nous. L'endroit était froid et sombre comme une caverne, si toutefois il existait des cavernes de cette taille. Une sculpture polychrome à l'aspect effrayant, suspendue à des câbles invisibles, tournait lentement sur elle-même comme sous l'action d'une brise que nous ne sentions pas. Nous nous retournâmes en même temps, Johnny et moi, vers la porte d'Istrance, au moment où celle-ci disparut. « On dirait que nous leur avons facilité le travail », murmurai-je à l'oreille de Johnny. Même ce faible chuchotement sembla se répercuter sous les voûtes de la grande salle aux reflets de lumière rouge. Je n'avais pas escompté, à vrai dire, que Johnny se distransporterait dans ce temple avec moi. La lumière sembla alors s'intensifier, sans pour autant éclairer les murs de la salle, mais révélant la présence de plusieurs personnes en demi-cercle. Je me souviens que certains prêtres Grichtek étaient appelés exorcistes, d'autres assesseurs et je ne savais plus quoi encore. Mais il était peu rassurant de les voir là. Au moins 2 douzaines d'entre eux, avec leurs robes aux motifs noirs ou rouges, et leur grand front qui luisait sous la lumière rubis venue d'en haut. Je n'eus aucun mal à reconnaître l'évêque. Il était né sur le même monde que moi, bien que plus trapu et plus corpulent que la moyenne des Lusiens. Et sa robe était celle qui avait le plus de rouge. Je n'essayais pas de dissimuler mon arme. S'il faisait mine de nous sauter dessus, j'avais une chance, bien que mince, de les abattre avant. Aucun d'eux ne semblait armé. Cependant, ils pouvaient aussi bien cacher un arsenal sous leur robe. Johnny s'avança vers l'évêque. Je le suivis. Nous nous arrêtâmes à 10 pas de l'homme. Il était le seul assis. Son siège était en bois et semblait pouvoir se plier à des dimensions très réduites pour être transporté aisément. On ne pouvait pas en dire autant de la masse de chair et de graisse qui tendait les plis de la robe rouge de son occupant. Johnny fit un nouveau pas en avant.
« Pourquoi avez-vous essayé de kidnapper mon Cybride ?»
demanda-t-il, s'adressant au grand prêtre du culte Grichtek, comme s'il était seul avec lui. L'évêque gloussa en secouant la tête.
« Ma chère entité, il est vrai que nous désirions votre présence dans ce sanctuaire, mais aucune preuve ne vous permet d'affirmer que nous soyons mêlés à une quelconque tentative d'enlèvement sur votre personne. »
« Ce ne sont pas les preuves qui m'intéressent. Je suis seulement curieux de savoir pourquoi vous souhaitez ma présence ici. »
J'entendis un froissement derrière nous et je pivotai vivement, l'étourdisseur pointé et prêt à faire feu. Mais le cercle des prêtres Grichtek n'avait pas bougé. La plupart d'entre eux, au demeurant, étaient hors de portée. J'aurais préféré avoir sur moi le pistolet de mon père. La voix de l'évêque s'éleva de nouveau, riche en sonorités graves. Elle semblait remplir tout le temple.
« Vous devez savoir que l'église de l'expiation finale porte un très grand intérêt à la planète Hyperion. » « Oui. » « Et vous savez aussi, je pense, qu'au cours de ces derniers siècles, la personnalité du poète Keats de l'ancienne Terre s'est trouvée étroitement mêlée au mythe culturel de la colonie d'Hyperion. »
« Oui. Et alors ?»
L'évêque se frotta la joue avec un gros anneau rouge qu'il portait à un doigt.
« Lorsque vous nous avez proposé de faire partie du pèlerinage Grichtek, nous vous avons donné notre agrément. Votre revirement n'a pas été apprécié. »
L'expression de stupéfaction qui se peignit sur le visage de Johnny n'aurait pas pu être plus humaine.
« Moi ? Je vous ai proposé ça ? Et quand donc ?
Il y a 8 jours en temps local, dans ce temple même. C'est vous qui en avez émis l'idée.
Vous ai-je dit pourquoi je voulais accomplir ce pèlerinage ?
Selon vos propres termes, si je me souviens bien, vous vouliez parfaire votre éducation. Mais tous les entretiens de ce genre sont enregistrés par nos soins. Si vous le désirez, nous vous remettrons une copie de l'enregistrement que vous pourrez étudier à loisir.
Volontiers. Dit Johnny.
L'évêque fit un signe à un acolyte ou je ne sais quoi, qui disparut aussitôt dans l'ombre et revint quelques instants plus tard avec une plaque vidéo standard. L'évêque inclina de nouveau la tête, et l'homme en robe noire s'avança pour remettre la plaque à Johnny. Je gardais mon étourdisseur pointé jusqu'à ce que l'acolyte retourne prendre sa place parmi les autres.
Pourquoi avez-vous envoyé vos gundas ?
C'était la première fois que je m'adressais à l'évêque, et ma voix était trop forte et trop âpre. Le grand prêtre du culte Grichtek fit un geste vague de sa grosse main potelée.
Ashkitz a exprimé le désir de se joindre à notre pèlerinage le plus sacré. Comme nous croyons que l'expiation finale se rapproche un peu plus de nous chaque jour, cette requête revêt pour nous une importance non négligeable. C'est pour cette raison que lorsque nos agents nous ont appris que Ashkitz avait été victime d'une ou plusieurs agressions et qu'une certaine personne qui se dit détective, il s'agit de vous, Ashlamia, avait détruit le garde du corps cybride affecté par le technocentre à la protection de Ashkitz.
Garde du corps ? C'était mon tour de tomber des nues.
Naturellement,
reprit l'évêque. Il se tourna vers Johnny.
Cet homme à la queue de cheval, qui s'est fait récemment assassiner sur le site d'excursion des Templiers, n'est-ce pas celui que vous m'avez présenté comme votre garde du corps il y a 8 jours ? On le voit très bien sur l'enregistrement.
Johnny ne répondit pas. Il semblait faire des efforts désespérés pour se rappeler quelque chose.
« Quoi qu'il en soit,
continua l'évêque,
il nous faut votre réponse à propos du pèlerinage avant la fin de cette semaine. Le Sequoia Semper Virens quitte le Retz dans 9 jours locaux. »
« Mais c'est un vaisseau arbre des Templiers,
s'étonna Johnny.
Ils ne desservent pas Hyperion par la voie longue. »
L'évêque sourit.
Ils feront une exception pour cette fois. Nous avons de bonnes raisons de penser que ce voyage pourrait être le dernier à être patronné par notre Église. Et nous avons affrété ce vaisseau templier de manière à permettre au plus grand nombre possible de fidèles de faire le pèlerinage.
L'évêque fit un geste et les hommes en rouge et noir reculèrent dans l'obscurité. 2 exorcistes s'avancèrent pour replier le siège de l'évêque lorsque celui-ci se leva.
Nous comptons sur votre réponse le plus tôt possible,
insista-t-il. Puis il disparut à son tour. Un seul prêtre était resté pour nous raccompagner. Il n'y avait plus de porte distance. Nous sortîmes par la grande porte du temple, qui donnait sur le parvis du grand escalier dominant le quartier marchand des Ruchers. L'air était froid et imprégné de l'odeur familière du mazout.